C'est à cause des produits nationaux bruts qu'on détruit les forêts, qu'on épuise les ressources de la mer, qu'on relègue des humains, qu'on fabrique de la famine. C'est fabriqué littéralement. C'est des stratégies qui créent la faim dans le monde, etc. Et on invoque toujours ce mythe de la croissance économique comme étant la solution, alors que c'est le gros problème. Et c'est pour ça que j'ai fait l'honneur de prendre la sobriété heureuse. La sobriété heureuse, ce n'est pas pour dire serrons-nous la ceinture, pas du tout. C'est pour revenir à la juste mesure des choses qui fasse que nous puissions à la fois avoir ce qui nous est nécessaire pour notre vie, c'est normal, c'est simple, se nourrir, être vêtu, avoir un toit sur sa tête, soigner quand on en a besoin. Et puis le reste, il faut le laisser à la jubilation, à la joie, à libérer le temps pour autre chose. Et tout cela donc est complètement évacué. Et on se plaint des multinationales, des choses comme ça, mais les multinationales, elles auraient du souci à se faire si nous devenions tous sobres. La elle est là, où est Hossa, la Leloba, l'Olusso. La elle est là, où est Hossa, un sang cessé joué. Sans la leçon de son homme, si le sang le l'amène. Sans la leçon de son homme, il l'autre joue le faux. Où est la lyre, elle est là.
Notre retour à la Terre, si vous voulez, quand nous avons décidé de faire ce retour à la Terre, nous ne connaissions rien à l'agriculture. Je voulais faire de l'agriculture, donc j'étais obligé de faire quelques études d'agronomie pour avoir un petit BA, le plus petit diplôme, parce que je devais passer par le Crédit Agricole qui me dit « Mais oui, mais allez prendre votre métier ». Et ensuite, je suis devenu ouvrier agricole pour apprendre. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je découvre évidemment l'exaction que commet l'agriculture contre la nature, c'est-à-dire le recours massif à des produits chimiques, etc., etc. Et quand nous avions, notre dossier était recevable par le Crédit Agricole pour pouvoir emprunter, seulement quand on fait la description de notre lieu, pas d'électricité, on a vécu 13 ans sans électricité, 8 ans avec très peu d'eau, des sols arides, un chemin à peine praticable, pas de téléphone, etc. Et qu'on a fait la description du lieu où nous voulions vivre, le Crédit Agricole nous a dit... On ne peut pas vous prêter parce qu'on ne peut pas vous aider à vous suicider. Voilà, c'était ça, l'argument. Seulement, le problème, c'était comment dire, comment avancer comme argument important le fait que le lieu est beau, le fait qu'il y a du silence, le fait qu'il y a une espèce de félicité intérieure. Nous nous sommes tombés amoureux, littéralement, de ce lieu. En disant, d'accord, il ne nous offre pas matériellement ce qu'il offre à d'autres, mais il nous offre une nourriture intérieure tellement puissante, tellement importante, que cette nourriture intérieure va nous donner le courage de notre survie. Et notre survie, nous n'allons pas la placer sur la matière, on la place sur la force de l'esprit, la force de ce qui nous nourrit intérieurement. Donc, ce n'était pas un défi, mais dès le départ, l'histoire de l'auto-limitation, non pas comme se serrer la ceinture, ce n'est pas ça du tout. C'est véritablement une option. Je veux garder l'équilibre par la sobriété, parce que le lieu m'offrant la joie, eh bien, cette joie, aucun milliardaire ne peut se l'acheter. On peut tout acheter, des yachts, des avions privés, toutes ces fariboles dont on se surcharge et dont on s'encombre pour finalement ne plus être. Et avoir, sans être, c'est pas vivre. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, la sobriété et la modération en tant que principe puissant, c'est très puissant la modération. Et c'est une puissance extraordinaire parce que vous vous dites finalement, et à ce moment-là, les facteurs de satisfaction, parce que le monde actuel vous dit à travers excite en permanence les gens à n'être jamais satisfaits. Ah, vous avez ça, mais il faut aller, il faut ça. Mais
malheureux, vous n'avez que ça. Ben, vous voyez, allez, etc. Et puis toutes les simagrées de la publicité qui sont une honte. Parce que moi, je me sens humilié, moi, quand j'ai pas besoin de voir une femme nue pour acheter une voiture. Je veux dire ça. On peut parfaitement me dire une voiture, c'est comme ça. Et c'est pas respect pour, profond pour la femme, justement. Et on manipule tout le monde de façon à ce qu'on soit dans cette boulimie permanente et cette boulimie permanente qui ne pourra jamais créer de la satisfaction.
Est-ce que vous connaissez cette phrase de saint Augustin qui dit « Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà ».
Non, je ne connais pas cette phrase.
C'est pas tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'au fond, l'homme doit apprendre à se satisfaire de peu de choses, oui, et d'aller plutôt dans savourer ce qu'on a déjà, vivre la qualité de ce qui nous est donné, plutôt que de toujours désirer autre chose. C'est sortir du toujours plus, de cette loi du désir mimétique qui fait qu'on désire aussi ce que les autres ont. Donc on regarde partout ailleurs et on veut plus. Alors ce que vous nous expliquez là, je trouve, va tout à fait dans ce sens-là, cette sagesse augustinienne, de dire au fond, avec peu de choses, on peut être très heureux, mais il faut savoir les vivre, les regarder. Et c'est ce que vous faites ici, on est dans un lieu qui est magnifique, effectivement. Et ce que vous nous disiez, c'est que votre bonheur, votre joie tient au plaisir esthétique, aussi du paysage et au temps que vous vous êtes donné, j'imagine, pour regarder, contempler, lire, travailler dans un cadre où vous sentez bien.
Oui, c'est à mon avis la vocation fondamentale de l'être humain, c'est justement de par le fait qu'il a une âme, une conscience, qu'il a quelque chose qui est de l'ordre de son intériorité et a besoin de nourrir cette intériorité. Or, aujourd'hui, par la célébration de la matière et la célébration permanente de la matière, fait qu'on a l'avoir ne peut pas nourrir l'être. C'est-à-dire que le temps que nous passons à avoir, c'est un temps qui est réduit par rapport à l'être. Et c'est là que j'entends la vraie aliénation. Et c'est là que j'entends la vraie option spirituelle, c'est de dire, bien sûr, on a besoin de se nourrir, on a besoin, etc. D'ailleurs, moi, j'ai choisi l'agroécologie, puisque je suis un promoteur depuis des années de l'agroécologie. Pourquoi l'agroécologie ? Parce qu'elle permet à la fois de se nourrir, elle permet de respecter la vie, c'est-à-dire qu'au lieu de détruire, produire et détruire, comme on le fait aujourd'hui, les sols pollués, toutes les substances toxiques qu'on répand partout, c'est de rendre hommage à la vie, justement en disant, j'ai besoin de manger, bien sûr, j'ai besoin de nourrir ma famille, j'ai besoin de me nourrir mes semblables, mais à la fois, je le fais en respectant et en prenant soin de ce magnifique don que nous fait le divin pour que nous puissions répondre à nos besoins, mais pas détruire ce qui nous a été donné. Voyez, donc c'est pour ça que je pense ma mission, enfin si j'en ai une, je ne m'attribue pas de mission particulière, je fais ce que je juge devoir faire si je veux justement rester dans cette dimension spirituelle du respect de la vie, et bien c'est propager en quelque sorte des méthodes très concrètes, parce qu'on n'est pas seulement dans le discours général ou les concepts généraux, très concrètement d'apprendre aux gens à être des gens respectueux de la vie.
Oui, alors justement, ici, on est entouré de beauté, et c'est vrai qu'on est saisi, on comprend que vous soyez nourri spirituellement et aussi physiquement par cette nature qui vous entoure. Mais que dites-vous de ceux qui vivent dans les villes ? Comment appliquer la sobriété heureuse ailleurs que dans ce paradis, finalement, où vous êtes ? Parce qu'après tout, la majeure partie de la population terrestre, aujourd'hui, ne vit pas. N'a pas les moyens, même physiques, matériels, d'être entouré de cette nature, d'être en contact avec la nature. Comment appliquer la sobriété heureuse à la vie moderne, urbaine ?
C'est là que ce qu'il faut savoir, c'est que le paradigme qui a été choisi, donnant à l'argent le plein pouvoir sur la vie elle-même, a piégé tout le monde. Les gens sont dans les villes, ils sont piégés. Et aujourd'hui, le piège est en train de se refermer parce qu'en ville, on n'assurera pas du plein emploi à tout le monde. J'ai l'impression vraiment que le piège est en train de se refermer. Pourquoi ? Parce que le choix idéologique dominant, reposant justement sur cette croissance économique, sur cette technologie, etc., avec une urbanisation folle et des espaces ruraux désertifiés. Nous, quand nous sommes arrivés ici, avec 4 à 5 fermes en activité, il n'y a plus rien. Donc le paradigme choisi a donné la prépondérance à la civilisation urbaine. Et aujourd'hui, ben voilà, on est piégé. C'est-à-dire qu'en ville, ben, s'il n'y a pas de terre, il faudra quand même se nourrir. Alors comment allons-nous nourrir les populations? Donc si vous voulez, ce qu'il faut remettre en question, c'est la logique elle-même. Ce que je n'entends pas dans le discours politique. Discours politique, vous allez voir ce que vous allez voir. On fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle dont on sait qu'il est mort. Il est mort, ce modèle. Il est mort. Donc il n'a aucun avenir, il n'y a aucune perspective d'avenir. Plein emploi, il faut faire un trait dessus, etc. Donc c'est là où la réflexion et la raison devraient nous amener à dire, bon, ce modèle-là s'achève, mettons en route autre chose. Et cette autre chose, l'expérience nous apprend qu'il ne peut pas reposer sur du toujours plus, sur une planète qui est elle-même limitée. S'il y avait plusieurs planètes, on dirait une fois qu'on a épuisé celle-là, on ira. Mais nous n'avons que celle-là. Et alors, tout cela devrait éclairer le politique. Mais ça ne l'éclaire pas du tout. Il continue à croire, à nous faire croire. Je ne suis pas dans la critique des individus. Hein. Je ne suis pas une gauche-droite. Enfin, je trouve ça un peu dépassé. C'est la politique qui n'est pas en phase avec la réalité du monde d'aujourd'hui. Donc, de ce fait, les conséquences du choix vont évidemment exploser. On voit cette explosion, l'angoisse qui augmente, un modèle qui faisait tant de promesses et qui aujourd'hui se désiste, finalement se retire et ne peut plus rien assurer. Il est normal, je serai en ville, j'aurai de l'angoisse aussi. Ou même, je peux avoir de l'angoisse par solidarité pour l'humanité. C'est pas, je me situe pas dans quelqu'un qui est planqué et qui est dans son petit paradis et qui se fout, pas du tout, je suis en communion avec tous ceux qui vivent une situation difficile. Mais cette situation difficile ne peut être résolue que si nous avons une vision différente où justement le sacré doit avoir sa place. Et quand il y aura le sacré, on respectera, on sera modéré, on sera dans la gratitude, on est dans rien de tout ça.
D'ailleurs, il n'y a rien d'inéluctable. Vous n'êtes pas le seul. Vous avez été un des pionniers à revenir à la Terre. Et puis, de plus en plus de gens l'ont fait après vous. Et moi, je vois dans ma propre famille, ma petite sœur a décidé, il y a une dizaine d'années, de quitter Paris et d'aller vivre dans la Drôme. Elle a fait un BTS d'agriculture. Elle fait des plantes médicinales. Donc, il y a beaucoup de gens qui, finalement, font comme vous. C'est-à-dire, décident de quitter le système, décident de quitter la vie urbaine pour aller vivre à la campagne. Ce retour à la Terre, c'est quelque chose qu'on voit déjà, Lélie, chez Jean Giono, par exemple, qui avait déjà ce sens très fort de la nécessité pour beaucoup d'hommes de revenir à la Terre pour redécouvrir ce que sont les lois de la vie, ce que sont les vraies valeurs.
Oui, il est certain que quand nous avons décidé de venir vous rendre visite ici, évidemment, Jean Giono s'est imposé à nous comme une référence, évidemment, ce grand écrivain de la Terre. Alors, évidemment, il parle de la Provence, mais ce n'est pas si loin que cela. Et le texte que j'ai choisi est extrait d'un texte qui s'appelle « Que ma joie demeure ». Et là aussi, je pense que c'est très en harmonie avec votre pensée. Et c'est une scène qui se passe dans la nuit. Et c'est quelqu'un, justement, qui va entrer en communion avec la terre et avec une espérance qui, je crois, n'est peut-être pas très loin de cette espérance que vous entretenez. C'était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent, il avait cessé. Et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe avec des racines d'or épanouies, enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit. Jourdan ne pouvait pas dormir. Il se tournait, il se retournait. Il fait un clair de toute beauté, se disait-il. Il n'avait jamais vu ça. Le ciel tremblait comme un ciel de métal. On ne savait pas de quoi puisque tout était immobile, même le plus petit pompon d'osier. Ce n'était pas le vent. C'était tout simplement le ciel qui descendait jusqu'à toucher la terre, racler les plaines, frapper les montagnes et faire sonner les corridors des forêts. Après, il remontait au fond des hauteurs. Il se leva. Le parquet était froid, le pantalon de velours glacé. Il y avait des éclats de nuit partout dans la chambre. Dehors, on voyait presque comme en plein jour le plateau et la forêt grémonne. Les étoiles s'éparpillaient partout. Il ouvrit le grand ventail. Il donnait directement sur le large du champ. Quand on avait vu la lumière de la nuit comme ça, sans vitre entre elle et les yeux, on connaissait tout d'un coup la pureté. On s'apercevait que la lumière du fanal avec son pétrole était sale et qu'elle vivait avec du sang charbonné. Pas de lune, oh, pas de lune, mais on était comme dessous des braises malgré ce début d'hiver et le froid. Le ciel sentait la cendre, c'est l'odeur des écorces d'amandier et de la forêt sèche. Jourdan pensa qu'il était temps de se servir de son Brabant neuf. Il y a sur la terre de beaux moments bien tranquilles. Si jamais je l'attends parce qu'il doit venir, se dit Jourdan, il arrivera par une nuit comme celle-là. Il y avait tant de lumière qu'on voyait le monde dans sa vraie vérité. Non plus décharné de jour, mais engraissé d'ombre et d'une couleur bien plus fine. L'œil s'en réjouissait. L'apparence des choses n'avait plus de cruauté, mais tout racontait une histoire. Tout parlait doucement au sens. La forêt, là-bas, était couchée dans le tiède des combes comme une grosse pintade aux plumes luisantes. J'aimerais bien qu'il me trouve en train de labourer, se dit Jourdan. Depuis longtemps, il attendait la venue d'un homme. Il ne savait pas qui, il ne savait pas d'où. Il ne savait pas s'il viendrait. Il le désirait seulement. C'est comme ça que parfois les choses se font, et l'espérance humaine est un tel miracle qu'il ne faut pas s'étonner si parfois elle s'allume dans une tête sans savoir ni pourquoi ni comment. Le tout, c'est qu'après, elle continue à soulever la vie avec ses grandes ailes de velours. Et puis c'est bien vrai, la nuit était extraordinaire. Tout pouvait arriver par une nuit pareille. Nous aurions beau temps que l'homme vienne.
Oui, c'est incontestablement un beau texte. Seulement, le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes confrontés à des réalités qui ne sont pas seulement solutionnables par des grandes envolées poétiques. C'est-à-dire que nous avons affaire à des réalités extrêmement concrètes, extrêmement aiguës. Et que c'est très bien que Giono, comme d'autres poètes, d'ailleurs, il n'est pas le seul, hein, on prend même chez les Grecs anciens l'exaltation, la beauté de la nature, la beauté de la vie, on la trouve partout. Seulement, aujourd'hui, on est confronté à des réalités extrêmement concrètes, extrêmement aiguës, d'une société sur laquelle il faut travailler pour orienter les choses autrement, etc. Donc, c'est un peu dans cette phase-là que nous nous sommes trouvés. Il en va d'ailleurs de ça. J'ai beaucoup lu Giono, hein, bien sûr, et je le respecte, il n'y a aucun problème. Mais le problème du monde d'aujourd'hui, c'est que les concepts, les idées, les bibliothèques croulent sous les concepts. Mais la réalité, elle, change très peu. Alors bien sûr, il y a cet ensemencement des consciences qu'il faut faire. C'est ce que je fais constamment, on ensemence des consciences. Mais une fois qu'on a ensemencé les consciences, encore faut-il dire ce que je dis, je peux le faire. Il est faisable. Vous pouvez le faire, concrètement. C'est ce que j'appelle, moi, l'incarnation des utopies. C'est comment, finalement, mener à la fois cet ensemencement des consciences, mais à la fois l'incarnation de ce qui a été proposé. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus... Tout le monde y va de son concept sur le monde comme il devrait être, sur ceci et sur cela. Mais le fait, dans la réalité, il y a des gens qui sont exclus, il y a des gens, la misère augmente. Aujourd'hui, au Sahel, il y a une famine épouvantable. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les zones Sahel.